chers amis. Voilà, nous allons ouvrir la parole de notre Dieu. Alors, le texte que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Alors, nous allons voir ensemble cette histoire qui est racontée de la vie de Naaman, ce général syrien. Ça fait partie des histoires que, à la classe de la Bible, les monitrices aiment raconter. Dans 2 Rois, chapitre 5. Mais avant de faire la lecture de ce passage, vous savez que au début de son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ, donc il est retourné donc à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Et dans Luc chapitre 4, il est dit que le Seigneur Jésus, le jour du sabbat, il est allé donc dans la synagogue, comme il faisait aussi habituellement. Et il a ouvert le livre du prophète Ésaïe. Et dans ce texte de Luc 4, il a cité ce passage d'Ésaïe 61, où il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et donc, le Seigneur Jésus, il cite ce passage d'Ésaïe 61, et le texte nous dit qu'après cela, donc, il s'assied, tout le monde le regarde un peu stupéfait. Les gens sont étonnés d'entendre, il est dit, dans la bouche du fils de Joseph, parce que pour eux, ils ont vu Jésus grandir, et puis voir toutes ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et le Seigneur, sachant qu'il serait rejeté par les gens de sa ville, de son village, il leur dit au verset 24, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc là, en disant cela, il affirme clairement qu'il est lui-même un prophète. Et comme nous le voyons en étude biblique, Jésus est le prophète annoncé par Moïse, lorsque Moïse dit à son peuple, au peuple d'Israël, que Dieu va leur susciter un prophète comme lui, écoutez-le. Et donc le Seigneur Jésus dit, aucun prophète, voilà, n'est bien reçu dans sa patrie. Et la suite du texte de Luc chapitre 4 nous dit que, à cause donc, du rejet de Dieu et de ses serviteurs, et Jésus sait que lui-même il serait rejeté, comme le peuple d'Israël a rejeté les prophètes, les serviteurs qu'il a envoyés dans l'Ancien Testament, il va leur citer deux exemples où Dieu aurait pu agir, mais à cause de l'endurcissement et à cause du rejet des prophètes et à cause tout simplement du rejet de Dieu, le Seigneur va citer Élie. Il dit, voilà, il y avait plein de veuves en Israël et Dieu a pourvu aux besoins de la veuve de Sarepta, qui n'était pas une Israélite. Et puis il dit aussi qu'il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc le Seigneur cite ce passage, il sait que il connaît les Écritures, bien sûr, et il parle donc de Naaman le Syrien, qui était lépreux, et qui a été purifié. Lui, le Syrien, alors qu'à l'époque, il y avait toujours les guerres entre la Syrie et Israël. Et Dieu n'a pas guéri les lépreux en Israël, mais il a guéri ce Syrien, Naaman. Et donc, le texte que nous allons lire, donc nous allons reprendre ce passage de 2 Rois, chapitre 5, où il est raconté comment ça s'est produit, donc la guérison de Naaman. Et nous verrons ensemble les raisons pour lesquelles Naaman a été donc purifié de sa lèpre et pas les Israélites. Donc pourquoi? Et puis l'attitude à avoir se sachant purifié de la lèpre. Donc je vous invite à lire avec moi ce passage de 2 Rois chapitre 5. Donc les versets 1 à 19. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est étonnant, hein? C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc ça montre vraiment la souveraineté de Dieu, que Dieu dirige les choses comme il veut et que il ne connaissait pas que Israël. Oui, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Et maintenant, Accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veux l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Voilà. Alors, vous savez que donc du temps d'Élie et donc après Élisée, il y avait donc régulièrement des affrontements entre Israël et la Syrie. Alors, si vous lisez les textes dans 1 Roi, chapitre 20 et suivant, il dit que donc grâce à ses serviteurs qui savaient que les rois israélites étaient donc des rois miséricordieux, et ça on le voit dans 1 Roi chapitre 20, le roi de Syrie, qui s'appelait donc Ben-Hadad, arriva à signer un traité de paix avec le roi d'Israël dans l'époque qui était Akab. Et donc on était dans une phase de réciproque de paix, mais cette paix était fragile. D'où la réaction du roi d'Israël qui pensait que finalement le roi de Syrie voulait chercher une occasion de dispute avec lui, il dit. Et donc, parmi ses serviteurs astucieux syriens, il y avait peut-être Naaman, qui était donc le général en chef de l'armée. Et c'est lors d'une bataille avec les Israélites ou à d'autres occasions que cette petite fille dont il est fait mention fut emmenée captive et donnée comme servante à la femme de Naaman. Alors le verset 1 nous présente cet homme qui est vraiment un homme important, hein. C'est pas comme vous voyez le défilé du 14 juillet. Vous voyez le président, c'est lui le chef de l'armée. Et à côté, lorsqu'il est sur la voiture militaire, et à côté, il y a un général. C'est le général en chef. Naaman, c'est cela. Et il est présenté là, Naaman, comme étant donc le chef de l'armée du roi de Syrie, donc le commandant en chef, le commandant suprême. Il jouissait, il est dit, de toute la faveur de son maître, donc le roi de Syrie. Alors, est-ce Ben-Hadad 1 ou 2 ? On n'est pas sûr. Donc, ça montre qu'il était très estimé par le roi, et parce que Naaman avait connu énormément de victoires. Et donc, c'était quelqu'un qui était apprécié par le roi. Et le texte nous dit qu'il a été même l'instrument entre les mains de Dieu pour délivrer les Syriens de leurs ennemis. Donc, c'est vraiment encourageant de lire ça parce qu'on voit justement le Dieu souverain qui dispose de toutes choses, qui dirige toutes choses. Nous ne comprenons pas tout. Et là, dans ma lecture personnelle, je suis en train de lire Jérémie. Et quand on lit les prophètes, on voit le Dieu qui annonce des choses. Il y a les guerres, etc., mais Dieu, il est au-dessus de tout ça. Et ce qui se passe là, aujourd'hui, encore, il ne faut pas oublier cela. Même, on ne comprend pas tout, mais Dieu est au-dessus, son plan s'accomplit. Et donc, Naaman était un instrument entre les mains de Dieu, tout comme il va dire que Nebuchadnezzar, le roi babylonien, sera son serviteur, ou Cyrus, etc. Donc, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Et il est dit aussi que Naaman était un homme fort et vaillant, pour souligner qu'il était donc un homme courageux. Et il était aussi certainement je mets assez riche, mais il était, je pense, très riche. Il est précisé là qu'il est parti avec 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Dans la version Sommer, qui est une version dont le français est plus courant, il dit que c'est l'équivalent de 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Donc c'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Mais après avoir dressé ce tableau très élogieux de ce général en chef, l'auteur du livre dit « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Dans la version Sommer, il est dit « Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Hélas. » C'était trop beau. Il était vraiment l'homme. Tout était magnifique. Il avait tout. Mais il était lépreux. Cette maladie, la lèpre, était, selon le commentaire dans la Bible Sommer, il dit que la lèpre là était dans sa phase, dans un stade initial, localisé dans une partie du corps, donc ça n'avait pas encore couvert tout son corps, parce que au verset 11, il dit qu'il pensait que Élisée, l'homme de Dieu, passerait sa main sur la place, il est dit, ou dans la version Sommer, sur la partie malade et le guérirait. Donc c'était juste le début de la maladie. Donc c'est la lèpre, une maladie grave de la peau, donc qui évolue au fur et à mesure, au point que, comme il est dit dans Luc chapitre 5, il y avait un homme qui était couvert, il est dit, de lèpre. Et il dit au Seigneur Jésus dans Luc 5, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur dit, « Oui, je le veux, sois pur. » Et après, il va lui dire à cet homme d'aller voir le sacrificateur pour faire ce que Moïse a prescrit pour sa purification. Et donc, pour le peuple d'Israël, et dans Lévitique chapitre 13 et chapitre 14, tout est expliqué pour comment... voir, discerner si c'est la lèpre ou pas et ce qui devait être fait. En tout cas, la personne qui avait la lèpre était séparée de la communauté et la maladie, c'est une maladie contagieuse et cette personne était considérée comme impure. Et pour retrouver sa place dans la société et une fois guérie, il fallait que le sacrificateur voit et puisse dire oui, effectivement, cette personne est guérie et puisse faire les sacrifices nécessaires pour la purification. Donc cet homme, ce brillant soldat, cet homme fort et vaillant, était lépreux. Alors pourquoi Naaman a-t-il été guéri de sa lèpre et pas les Israélites, comme le Seigneur Jésus a dit? Dans Luc chapitre 4, verset 27, je reprends, il dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Donc, pourquoi Naaman a été purifié de sa lèpre et pas les Israélites, parce qu'il y avait beaucoup de lépreux aussi. Et le Seigneur Jésus a dit que aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc ça nous aide à comprendre les raisons pour lesquelles en Israël, du temps d'Élisée, beaucoup de lépreux n'ont pas été purifiés. Pourquoi? Parce que la majorité du peuple d'Israël a rejeté le prophète de l'Éternel. Et en rejetant le prophète de l'Éternel, ils ont rejeté aussi Dieu. Au verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Donc le roi d'Israël savait qu'il ne pouvait pas guérir Naaman, Il savait qu'il était impuissant, mais il avait oublié aussi qu'en Israël, il y avait un prophète par qui le Seigneur accomplissait ses miracles. Le peuple d'Israël, au lieu de se tourner vers Dieu, a rejeté l'Éternel, a rejeté ses serviteurs, et c'est ce qui est dit aussi concernant Élie. Ils vont rejeter Dieu pour se tourner vers les dieux païens, les Baals, les Astartés, etc. Et dans 1 Roi chapitre 18, vous pouvez prendre avec moi, 1 Roi chapitre 18. Alors, on va juste lire quelques versets. 1 Roi chapitre 18, il dit au verset, je vais lire à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit : Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit : Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes et à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voilà, et la suite, vous pouvez lire la suite, mais c'était ça. Le peuple avait mis Dieu de côté et il adorait Baal et les dieux des autres peuples. Donc, Dieu, à cause du rejet, Dieu a... Vous m'avez tourné le dos, alors... Moi, je ne veux pas répondre à vos prières tant que vous ne vous humiliez pas. Et donc, Dieu a montré qu'il prenait soin aussi des autres, comme Naaman. Donc, Naaman, par la grâce de Dieu, il a connu la guérison parce que, déjà, la première des choses, c'est parce qu'il avait dans sa maison cette jeune fille israélite qui, elle, n'avait pas oublié qu'en Israël et à Samarie, qu'il y avait un prophète qui pouvait guérir son maître. Si le peuple, la majorité, avait oublié, avait tourné le dos à l'Éternel, cette petite fille savait qu'en Israël, il y avait un homme de Dieu. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc là, on voit vraiment la confiance de cette petite fille. Il le guérirait de sa lèpre. Et donc, les paroles de cette jeune fille nous laissent penser qu'elle était donc non seulement bien traitée par Naaman, par sa femme, parce que voilà, elle a voulu que son maître soit guéri. Et donc, elle a usé de compassion envers son maître, connaissant son besoin et celui qui pouvait lui apporter la guérison. Elle était la servante, mais elle était certainement bien traitée. Et elle a voulu que son maître puisse connaître le prophète. L'autre chose, c'est que Naaman a été guéri, non seulement parce qu'il avait la chance d'avoir cette petite fille chez lui, et qui lui a dit cela, mais il a accepté de croire en la parole de cette petite fille. Et il s'est mis en action sans tarder. Dès que la fille lui a dit ça, il n'a pas dit « Ah, bon, c'est une petite fille qui me dit ça, bon, je ne vais pas en tenir compte. » Voilà. Il a mis sa confiance dans la parole de cette petite fille et il est parti pour Israël. Naaman a été guéri parce que aussi, je note, malgré le mauvais accueil du roi d'Israël, dans les versets 7. Ça aurait pu voilà, le décourager et puis voir un peu la réaction du roi. Ça ne l'a pas empêché d'avancer. Le verset 7, il dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Donc lui, le roi, entre guillemets, il n'avait rien à faire de la lèpre de Naaman. Contrairement à la jeune fille qui, elle, voulait que Naaman soit guéri. On parlait de l'accueil, voilà, on ne peut pas dire qu'il a été bien reçu. L'autre chose, c'est que Naaman a été guéri aussi malgré son orgueil qui a été piqué au vif, là, versets 8 à 12. Alors, il ne faut pas oublier, c'est un chef militaire qui est habitué aux apparats, aux honneurs. Il s'attendait que Élisée vienne déjà lui-même devant lui pour l'accueillir. Il s'attendait à ce que Élisée vienne et se présente pour invoquer son Dieu. Et non, rien de tout cela. Élisée reste tranquillement chez lui et lui fait dire par un messager, « Allez, va, lave-toi, jette-toi cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Là, c'était une surprise pour Naaman. Il a fait tous ces kilomètres. Et puis, Élisée, cet homme de Dieu, ne prend même pas la peine de venir à sa rencontre pour le saluer et puis faire ce qu'il a à faire. Il lui dit, « Va, jette-toi cette fois dans l'eau et tu seras guéri. » Pour lui, c'est un affront. Pour quelqu'un de sa stature, de sa position. Et donc là, son orgueil est vraiment piqué au vif, mais Dieu va parler à son cœur. Et l'autre chose, c'est qu'il regarde l'eau du Jourdain, il voit que c'est une eau qui est boueuse. L'eau, le Jourdain, c'était ça. Alors, il dit, il parle des fleuves d'eau vive, on parlait de fleuves aussi ce matin, mais il dit, mais chez moi, à Damas, il y a l'Abana et le Parpa, il dit, mais qu'il y a de l'eau claire, etc. Et j'aurais pu rester chez moi et puis me jeter dans l'eau, cette eau limpide, et puis voilà, je serais guéri. Et là, Élisée lui dit de se jeter cette fois dans une eau boueuse, et donc là encore, c'est pour lui, ça ne va pas. Donc là, c'est son orgueil là qui voilà. Et donc il a décidé de repartir, il est furieux. Et là, ses serviteurs, verset 13, les serviteurs vont lui parler. Il dit, mais si il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Certainement, il l'aurait fait. Il dit, mais combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et donc là, on voit que Naaman, quelle que soit sa position, non seulement il avait déjà écouté cette jeune fille, mais on voit qu'il est prêt à écouter aussi ses serviteurs. Ses serviteurs qui vont lui dire, mais alors réfléchis un peu. Il va décider de les écouter et il va faire ce que ses serviteurs lui disent. Là. Et là, on voit qu'il se soumet et il va faire ce que le prophète lui a demandé de faire. Il va aller dans le Jourdain et il va s'y baigner cette fois et il sera guéri. Donc Naaman a été complètement purifié de sa lèpre parce qu'il avait cette servante, la servante de son épouse israélite qui connaissait qu'en Israël il y avait un homme de Dieu qui pouvait le guérir de sa lèpre. Il a eu confiance en la parole de cette fille. il n'a pas laissé l'insensibilité du roi d'Israël, ni même son propre orgueil, l'empêcher de faire ce que l'homme de Dieu lui avait demandé de faire. Il s'est humilié devant ses serviteurs et a obéi à ce qu'Élisée lui avait demandé de faire. Et la troisième partie de ce texte, dans le verset 15 à 19, on voit quelle est l'attitude à avoir se sachant purifié de la lèpre. Une fois que Naaman, il va voir qu'il a été purifié, comme Élisée lui a dit, il ne va pas partir et puis tout content, non. Il va retourner, il est dit, vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite, et c'est vraiment là, on va voir que c'est vraiment là une conversion. Il va confesser déjà que pour lui, le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. C'est ce qu'il dit. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Donc voilà, il reconnaît la toute-puissance, la souveraineté de Dieu, le Dieu d'Israël. Et là, c'est, je note, quelle honte pour les Israélites qui ont fait le choix de tourner le dos au Dieu d'Israël, à leur Dieu, pour se tourner vers les Baals, les Astartés, etc. Et là, ce Syrien qui dit non, le seul Dieu, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. L'autre chose, c'est que il va donc confesser que pour lui, le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Il va aussi lui offrir un présent en guise de reconnaissance. Il va vouloir offrir à Élisée un présent en guise de reconnaissance. Dans verset 15 à 16, c'est un païen qui se convertit, donc il a des pratiques, voilà. Et donc, tout simplement, il veut remercier Élisée pour ce qu'Élisée a fait pour lui. En tout cas, c'est dans sa tête, c'est ça. C'est grâce à Élisée que je suis guéri. C'est Dieu, il a agi, mais Élisée a été cet instrument. Et là, Élisée refuse. Élisée dit, non, moi je n'accepterai pas tous ces biens, c'est 350 kilos d'argent, etc. Non, ça je n'en veux pas. Tout simplement parce qu'Élisée, lui, en tant que serviteur, il sait qu'il n'est pas là pour s'enrichir. Lorsque Dieu agit, Dieu est puissant, c'est lui qui fait. Lui, il n'est qu'un instrument et il n'est pas là pour s'enrichir. Pour cela. Donc, on peut lire Michée, chapitre 3. Alors, Michée, chapitre 3, parce que justement, c'était cela aussi en Israël. Ce peuple qui a tourné le dos à l'Éternel et ces faux prophètes qui étaient là. Versets 5 à 12, dans Michée chapitre 3, versets 5 à 12, il dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. » Vous aurez des ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, dit Michée, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Donc, voilà, il y avait les prophètes, eux, c'était, ils annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Ou ils annoncent la guerre s'ils n'ont rien dans la bouche. Donc, ça nous dit, faisons attention à tous ces, je mets des guillemets, ces prophètes qui annoncent ces choses s'ils ont quelque chose sous la dent. Et puis, un Timothée chapitre 6. Toujours par rapport à ces... Alors, dans l'Ancien Testament, c'était les faux prophètes. Là, c'est les faux docteurs. Je vais lire à partir du verset 3, 1 Timothée 6, verset 3. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà ces faux docteurs qui pensent que la piété est source de gain, qui s'enrichissent sur le dos des fidèles. Mais Élisée, ce n'était pas là. Élisée, c'était un vrai homme de Dieu, un homme qui ne voulait pas s'enrichir, et c'est pour cela qu'il a refusé les biens que Naaman voulait lui offrir. Et puis, l'autre chose que Naaman va faire, donc on a vu que non seulement il reconnaît que l'Éternel est le seul Dieu, il veut montrer sa reconnaissance envers Élisée, Élisée va refuser, mais aussi il va rendre témoignage aussi là, de sa conversion, qu'il dit au verset 17 qu'il ne veut plus offrir d'holocauste et de sacrifice à d'autres dieux, si ce n'est qu'à l'Éternel seul. Il veut repartir avec de la terre du pays, peut-être pour construire un autel, pour adorer l'Éternel lorsqu'il va retourner dans son pays. Et puis il demande à Dieu de le pardonner parce qu'il sait qu'il sera amené à accompagner le roi lorsque le roi, lui, va adorer son Dieu, même si lui, il n'y croit plus, mais à cause de sa fonction, il sera amené à être avec le roi. Et donc il sait qu'il sera obligé de se prosterner, même si dans son cœur, il ne veut plus le faire, mais il sera obligé de le faire. Donc déjà là, il dit que l'Éternel puisse me pardonner, pardonner à ton serviteur. Et donc Élisée lui dit, va en paix. Voilà, c'est l'histoire de Naaman. Le Seigneur nous montre qu'il veut le salut, il veut la purification de tout homme, notamment de ceux qui le cherchent. Et la lèpre, on peut beaucoup voir dans la lèpre une image. Une image du péché qui est là comme une tâche dans notre vie. Et le Seigneur Jésus, il est venu pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier et pour que nous puissions être en communion avec Dieu et puis que nous puissions être en communion les uns avec les autres. Le Seigneur nous demande de rejeter tout fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et vous dire que nous avons tous besoin d'être purifiés. Nous avons tous besoin que Dieu nous rende purs. Alors, pour vous qui n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, alors le Seigneur dit, et c'est l'apôtre Pierre qui le dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et l'apôtre Paul, il disait aux Corinthiens, il cite toutes sortes de péchés que les Corinthiens avaient pratiqués dans leur vie passée. Ils vivaient dans la débauche, dans l'homosexualité, dans toutes sortes de choses que Dieu condamne. Mais il leur dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés ou purifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc l'apôtre Paul dit, quels que soient les péchés que vous avez pu commettre, lorsque vous avez mis votre confiance en Jésus, Dieu vous a lavé, Dieu vous a purifié de tout. Et donc, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus-Christ, si la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc, on va dire, nous sommes tous des lépreux. Et comme tous lépreux, on doit avoir besoin d'être purifié. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut le faire. Seulement le sang de Jésus qui peut vous purifier de toute iniquité. Et donc, Pierre disait, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, demandez pardon à Dieu, tournez le dos à cette vie passée et tournez-vous vers Dieu et vos péchés seront effacés. Pour vous qui avez déjà fait ce pas, mais qui êtes éloignés à cause d'un péché, vous avez confessé le nom de Jésus, mais dans la situation présente, vous savez que votre vie n'est pas en règle avec Dieu. Vous vivez dans le péché. Vous avez cette tâche-là dans votre vie. Vous avez besoin d'être purifié. Est-ce que vous allez rester et laisser cette tâche prendre de plus en plus de place? Ou est-ce que, comme Naaman, vous allez entendre cette petite fille qui vous dit « Va, voilà ce qu'il faut faire. » Et la parole de Dieu est là pour nous dire ce qu'on doit faire. Dans Ésaïe, le Seigneur dit « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et il s'adresse à son peuple, Israël. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Et donc, ce peuple qui avait rejeté l'Éternel pour se tourner vers les Baals, vers toutes sortes de dieux, Dieu leur dit, revenez à moi, et vous serez purifiés. Et pour nous qui désirons lui rester fidèles, le Seigneur continue son œuvre de purification dans nos cœurs par l'eau de sa parole. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme qui pêche. Et donc, s'il nous arrive de pécher involontairement, reconnaissons, confessons nos péchés à Dieu, et il nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le Seigneur Jésus a dit, dans Éphésiens chapitre 5, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Donc cette œuvre de purification, le Seigneur continue cette œuvre en nous. Et lorsque nous étudions la parole, lorsque nous cherchons à connaître la volonté de Dieu, alors Dieu nous transforme petit à petit, et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, comme Naaman, nous devons reconnaître que nous avons besoin d'être purifiés. Alors, écoutons cette petite fille. Écoutons celui-ci ou celle-là qui va nous dire, voilà ce que dit la Bible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mets ta confiance en Jésus et tes péchés seront pardonnés. Jésus-Christ, il a donné sa vie sur la croix, son sang a coulé et c'est son sang qui va te purifier de toute iniquité. Parole de Dieu. Il dit, voilà, si vous croyez en Jésus, vos péchés seront pardonnés. Alors, écoute. Est-ce que tu vas endurcir ton cœur? Et puis dire... voilà, je vais rester dans ma situation. Ou est-ce que tu vas t'humilier? Et comme Naaman qui a écouté cette petite fille, qui a écouté ses serviteurs, il a fait preuve d'humilité et il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc mettons notre foi en cette parole et mettons-nous en action pour faire ce que cette parole nous dit. si Dieu dit confesse ton péché, alors mettons-nous en action. Confessons nos péchés. Ne laissons pas notre orgueil et quelque autre sentiment nous empêcher de faire ce que le Seigneur Jésus, lui, le prophète par excellence, nous demande de faire. Montrons notre reconnaissance aussi à notre Dieu, qui nous a purifiés, en lui offrant un culte d'adoration qui lui soit digne. On voit vraiment que Naaman, lui, il veut montrer sa reconnaissance à Dieu. Il veut adorer Dieu, il veut avoir cet autel où il va louer l'Éternel. Voilà. À la fin, Élisée lui dit, va en paix. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et Jérôme l'a cité tout à l'heure dans Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et Naaman pouvait repartir en paix parce qu'il a trouvé la paix avec Dieu. Et là, on va dire, c'était un jeune converti. Il sait que, voilà, aller avec son maître, c'est pas bon. Et donc, il demande à Dieu de le pardonner. Et Élisée lui dit, va en paix. Peut-être que par la suite, il va prendre position et il va dire, voilà, maintenant tout ça c'est fini, je démissionne, ou je sais pas, parce qu'il veut honorer Dieu. Mais parfois, on est parfois dans des petites situations où Dieu connaît nos cœurs. Il voit vraiment les dispositions de notre cœur. Et cette parole va en paix. Va l'encourager et l'aider à avancer et aussi prendre les décisions qui honorent Dieu. Donc, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Et pour vous qui n'êtes pas encore en Christ, vous pouvez trouver la paix avec Dieu et vous pouvez trouver la paix dans votre cœur. Voilà. Amen.